Seigneur, tu vois, on est là ce matin, on te chante, on te prie, on est là pour toi, bien que nous soyons aussi là pour nous-mêmes, puisque nous attendons de toi. Seigneur, nous venons tous avec nos soucis, nos difficultés, nos échecs, nos victoires aussi, nos joies, nos peines. Seigneur, je te prie afin que tu puisses nous parler. Et te révéler encore plus à nous ce matin au travers de ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Alors on va ouvrir la Bible dans la deuxième épître à Timothée. Ce sera peut-être presque une petite suite de l'étude qu'on a fait vendredi soir. J'ai déjà parlé sur ce texte. En fait, je vais vous donner un petit peu le contexte avant de le lire. On est dans ce qu'on appelle les épîtres pastorales. L'épître pastorale, c'est 1, 2, Timothée et Tite. Quelquefois, on y inclut aussi la lettre à Philémon. Les pastorales s'adressent à des individus, pas à des églises, contrairement à d'autres lettres. Même si l'église, bien sûr, en profite un maximum. C'est Timothée et Tite sont les deux fils spirituels chéris de Paul. Timothée est un jeune homme de moins de 35 ans, de santé fragile, et au travers de ses lettres, on voit qu'il a besoin d'être encouragé. La première lettre à Timothée a été rédigée en 65 ou 66 par Paul, après une première captivité romaine, et après ses voyages à Philippe, Colosse, et son séjour à Éphèse et en Crète. La deuxième lettre à Timothée, celle que on va ouvrir, a été rédigée 66, 67, peut-être même 68. Paul est incarcéré à Rome, là. Et il a vraisemblablement été arrêté à Éphèse ou Troas, laissant Timothée en larmes. D'ailleurs, au premier chapitre, on le lit, « Je me rappelle tes larmes ». Et Paul attend son exécution. Témoignage personnel, celui qui m'a mené au Seigneur a deux fils spirituels, on appelle ça comme ça, entre guillemets. Nous sommes en contact très régulier, il lui arrive de m'écrire, je lui écris, on s'appelle, bref, on a une relation qui est là, constante. On se voit aussi au travers de Skype, environ toutes les 3 semaines à peu près. Notre parcours commun, parce qu'on a un parcours commun, spirituel, un cheminement commun, atypique, fait que notre relation, elle n'est pas organisée, structurée, voire même institutionnalisée. Vous voyez ce que je veux dire? Ce n'est pas une institution, ce n'est pas quelque chose qu'on a mis point par point. Bon, alors, elle l'est parfois, par la force des choses. Parfois, on est obligé de mettre quand même des choses dans un cadre, hein. On est d'accord. Mais notre relation découle avant tout d'un élan du cœur. En fait, nos entretiens sont souvent spontanés et on est sur un pied d'égalité. Notre relation s'est construite sur un pied d'égalité. Je confirme, l'élève n'a pas rattrapé le maître. L'élève n'a pas rattrapé le maître. Mais il y a une authenticité relationnelle sans arrière-pensée, sans méfiance, qui s'est établie avec les années. On est sur un pied d'égalité. Je crois qu'on a l'un pour l'autre une affection quasi familiale, identique à celle que nous pouvons voir dans Paul et Timothée, identique à celle que nous pouvons avoir avec une maman, un papa, un frère, un cousin, quelqu'un qui est proche par notre filiation, vous voyez ? Je crois que Paul et Timothée partageaient cette dimension relationnelle. Paul connaissait d'ailleurs très très bien les proches de Timothée, sa grand-mère Loïs, sa maman Eunice. Il a même circoncis Timothée. Paul a circoncis Timothée. D'ailleurs, c'est quand même quelque chose, quoi. Timothée, à 35 ans, se faire circoncire par son pote, bon, je ne sais pas si je l'aurais fait, hein. Mais j'aurais aimé lire les lettres de Timothée à Paul. Vous voyez ? J'aurais aimé. Et Timothée est en train de vivre une forte opposition de l'intérieur, de la part même du peuple de Dieu. Et il n'y a rien de plus terrible. Si en plus de ça, tu as l'opposition de ta famille, là, en fait, tu n'as plus personne, quoi. En tant que chrétien, si tu es dans une opposition, dans une souffrance qui est liée à ta vie chrétienne par rapport à ton église, et en plus de ça, rejeté de ta famille parce que tu es chrétien, alors là, ça, c'est difficile. Je comprends les gens qui vivent des tensions dans l'église, mettent des années parfois à s'en remettre, parce que c'est pas rien. Nous avons une relation, nous aussi, qui est quasi familiale, puisqu'on fait partie de la famille de Dieu. Alors, heureusement pour Timothée, il y a son ami Paul, lui-même abandonné par ses collaborateurs, à part Onésiphore. Paul subit aussi l'ingratitude et la lâcheté de ceux qui lui ont tourné le dos. En fait, Timothée ne vit pas tout seul ces choses. Et Paul l'encourage donc à ne pas laisser le découragement l'envahir, ne pas baisser les bras, ni s'apitoyer sur son propre sort, mais plutôt, comme le verset 1er du chapitre 2, se fortifier dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Et il lui dit, souffre avec moi comme un bon soldat du Christ, de Jésus-Christ. Tu fais partie des chrétiens fatigués, pareil à des soldats blessés, qui ont besoin d'une permission. Il faut prendre du temps pour se reposer à la lumière pleine d'amour de la présence de Jésus. On l'a chanté, rechanté ce matin. En d'autres termes, ce que m'a dit mon père spirituel, mon ami, cette année, arrête-toi un moment, prends du temps avec et pour ta famille, prends du temps avec Jésus. Élève ta perspective, prends de la distance par rapport aux difficultés que tu vis. Ma relation avec mon père spirituel est un peu comme ça. Si on était là, bien qu'aujourd'hui, au bout de quelques années, entre certains d'entre nous, on a des relations vraiment profondes. Vraiment. Et je remercie le Seigneur pour ça. Mais si on était là, c'est comme si tu avais... Voilà, c'est comme Manu et Sandrine avec sa maman et son papa. Et il y a quelque chose de plus. Il y a eux et nous, et il y a eux. Et c'est pareil avec un père spirituel ou une mère spirituelle. Il y a toi et elle, moi et lui, et il y a nous, il y a vous. C'est pas de l'orgueil spirituel, c'est simplement une relation qui est profonde. Aucun mépris. Seulement une relation d'affection identique que celle qu'on peut avoir avec quelqu'un qui fait partie de la même famille, qui est issu de la même généalogie, etc. On a le même sang. Un peu comme Jésus avec Jean. Jean et Jésus, Paul et Timothée. Tu vois, Jean avait une relation particulière avec Jésus. C'était celui qui était sur la poitrine de Jésus et qui écoutait quelque part les battements de son cœur. Pas tous les disciples étaient se reposer sur la poitrine de Jésus. Jean, oui. Et pourtant, Jésus aimait tous ses disciples, hein, n'est-ce pas ? Ça n'enlève rien à l'affection aux autres disciples, mais là, c'est familial. Cette relation est d'abord issue de la providence divine qui, sur notre route, place, pas toujours, une ou plusieurs personnes qui vont être là pour nous tendre les bras, des modèles, des référents, des conseillers, à plus ou moins grande échelle, dans certains niveaux. Alors on peut rire avec eux, on peut pleurer avec eux, on peut s'épancher avec eux. Je pense que c'est ce qu'on essaye de faire avec France Évangélisation dans ce qu'on appelle le mentoring, mais c'est un peu plus institutionnalisé. Bien sûr qu'il n'y a pas que Timothée dans la vie de Paul. Il y avait des nombreux compagnons. Il y avait Barnabas, Silas, Jean, surnommé Marc, Apollos, Luc. On pourrait aussi évoquer tous ceux qu'il a évangélisés, Denis, Damaris, Gaius, Sopater, Tichic, Trophime, Stéphanas, Clément, Epaphras. Tous ceux qu'il mentionne aussi dans Romains 16 pourraient être dans cette liste. Paul était prêt à donner sa vie pour toutes ces personnes, sans exception. Il les aimait certainement, mais l'intimité avec Timothée était quand même particulière, spéciale. Et au milieu de tous ces noms, de tous ces frères et sœurs en Christ, il y en a seulement deux qu'il qualifie d'enfants légitimes en la foi, Tite et Timothée. Mais des deux, c'est peut-être Timothée dont il se reconnaît le mieux. Dans Philippiens 2, il est dit « J'espère dans le Seigneur Jésus vous envoyer bientôt Timothée afin d'être encouragé moi-même en apprenant ce qui vous concerne. Car je n'ai personne ici qui partage mes sentiments pour prendre sincèrement à cœur votre situation. Tous en effet cherchent leurs propres intérêts et non ceux de Jésus-Christ. Vous savez qu'il a été mis à l'épreuve en se consacrant au service de l'Évangile avec moi comme un enfant avec son père. » 1 Corinthiens 4, verset 17, « Pour cela, je vous ai envoyé Timothée, qui est mon enfant. Pas un de mes enfants, mais mon enfant. Bien-aimé et fidèle dans le Seigneur, il vous rappellera quelles sont mes voies en Christ, quelle est la manière dont j'enseigne partout dans toutes les églises. » Les deux lettres de Timothée incluent le passage que nous allons lire aujourd'hui, sont une correspondance écrite entre un père et son fils, entre un maître et le plus cher de ses élèves. Ça va être difficile de décortiquer 13 versets, mais je vais vous donner ce que je peux. Le reste, vous l'étudierez vous-même. Alors, les versets 1 à 13 du chapitre 2 de 2 Timothée, pas de 1, de 2 Timothée, on pourrait les diviser en deux parties. Versets 1 à 7, j'appelle ça les vitamines dans le ministère. 8 à 13, j'appelle ça l'endurance dans le ministère. L'un ne va pas sans l'autre. Si tu n'as pas des vitamines, ben tu ne vas pas loin. C'est comme dans le sport, c'est comme dans tout. Si tu n'as pas un bon petit déjeuner, ta journée, elle va mal commencer. Hein? Ça va être difficile de tenir le coup. On va lire 2 Timothée 1 à 7. « Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Ce que tu as entendu de moi, en présence de nombreux témoins, confie-le à des personnes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Souffre avec moi, comme un bon soldat de Jésus-Christ. Aucun soldat en service ne s'embarrasse des affaires de la vie courante s'il veut plaire à celui qui l'a recruté. L'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas lutté en respectant les règles. Le cultivateur, qui travaille dur, doit être le premier à récolter les fruits. Comprends ce que je dis et que le Seigneur te donne en effet de l'intelligence en toutes choses. » Depuis le mois de janvier, avec ma fille, on fréquente un club canin. Minimum une fois par semaine. Maximum deux fois. Et on apprend beaucoup sur les gens et sur les chiens. Mais pas que sur les chiens, sur les gens aussi. En fait, parce qu'on travaille avec la brigade cynophile de la gendarmerie et de la police nationale. On côtoie pas mal de gens. Hein, le soir, quand on y est, on est bien une dizaine. C'est sympa. Thomas est venu avec nous cette semaine, avec moi. Resté jusqu'à 9h du soir. C'est vachement sympa, on connaît les gens. Mais il y a quelque chose que j'ai appris, c'est qu'un chien maltraité, violenté, sous-alimenté, mal aimé, est un chien sous-développé. Ça se voit physiquement, ça se voit émotionnellement, socialement et mentalement. Ça se voit. Un chien qui a été abandonné, qui a subi les coups, etc., ça se voit. Dans son comportement, ça se voit. Il y a des réflexes qu'il a pris. Peut-être la peur de quelque chose. Un chien qui est bien dans ses baskets, ça se voit aussi. Et c'est exactement le même problème que l'on rencontre chez de nombreux chrétiens, sous-alimentés, et qui par conséquent sont sous-développés, confus, désorientés, immatures dans les choses de Dieu. C'est bizarre, parce que nous vivons à une époque où il y a de plus en plus de prédicateurs et d'églises. C'est étonnant quand même. Ça devrait être le contraire, non? Il y a de plus en plus d'églises. On te dit, mais aujourd'hui, il y a une église toutes les 10 jours qui s'ouvre en France. Et pourtant, c'est bizarre quand nous vivons à une époque où les églises même ont des activités, je dirais, presque à la carte. Presque à la carte. Un des soucis de Timothée pour les membres de son église, c'est qu'il ne soit pas flottant et emporté à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leurs ruses, par les moyens de séduction. On trouve ça dans Éphésiens 4. Timothée devait se battre pour ne pas sombrer dans la fatigue causée par les frustrations, les obstacles dans l'œuvre de Dieu qui finissent finalement par lui paraître insurmontables. Pour s'en sortir dans de telles conditions, on a finalement souvent recours à nos propres forces. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire pour me sortir de là? Ça me ressemble. Qu'est-ce que je vais pouvoir trouver comme solution personnelle pour me sortir de certaines situations? Une seule solution, qui est spirituelle, en fait. Et l'apôtre Paul l'a dit dans ce premier verset, « Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. » Alors, pour que cette phrase sorte de la plume de Paul, Timothée devait avoir le moral à zéro. En fait, Paul a dû discerner que Timothée, son enfant chéri, il était dans une situation dangereuse. Sa foi était en danger. Peut-être même qu'il a dû discerner que Timothée, il était en train de remettre en question sa vocation, ses dons, l'efficacité de son ministère. Découragé. Tu as discerné déjà ça chez ton frère et ta sœur? Qu'est-ce que tu as fait quand tu as vu ça? Pas évident, hein? Nous, solution humaine, allez, tu as conseillé quoi? Une solution en quatre points? Lis un peu plus ta Bible, prie un peu plus, fréquente un peu plus de chrétiens. C'est ça? Timothée, pense à ranimer la flamme du don de Dieu qui est en toi. Verset 6. Mais ce qu'il y a d'intéressant, c'est que Timothée, dans ce texte, on voit qu'il n'a rien à obtenir de plus de Dieu que ce qu'il a déjà reçu. Paul n'est pas en train de lui dire « il faut que tu obtiennes plus, il faut que tu fasses plus ». Non, 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 du tout. Ranimer, bouche à bouche, non, non, merci, même pour mon père spirituel. Hein. Retrouver la consécration et l'assurance passe par un regard renouvelé de la grâce qui est en Jésus-Christ. Si tu veux retrouver la consécration et l'enthousiasme et l'assurance, tu dois passer par un regard renouvelé de la grâce qui est en Jésus-Christ. Je vais vous dire quelque chose de très personnel. Je me prêche à moi ce matin. Je me prêche à moi. J'ai besoin d'avoir un regard renouvelé de la grâce qui est en Jésus-Christ. Et toi? On n'a rien à obtenir de plus. Timothée doit se souvenir. Se souvenir et exercer la force et l'amour que le Seigneur lui donne. Il doit cesser d'avoir honte du témoignage à rendre à Jésus. Une parenthèse. Un passage qu'on interprète rarement dans sa totalité. Honte, rougir. Ouais. Vous croyez que c'est ça? On interprète tout le temps ce passage de cette manière-là, comme si j'avais honte de parler de Jésus. Timothée, le pauvre, il était tellement poussé dans ses retranchements qu'il avait honte de parler de Jésus. Vous croyez que c'est ça? Moi, je ne crois pas. Je ne crois pas. Je crois que la honte dont il s'agit, c'est à force de prendre des coups, tu finis par hésiter avant de t'engager. Tu finis par te dire, « Oh là là, à chaque fois que je veux faire un pas, à chaque fois que j'ai une prédication à donner, à chaque fois que j'ai quelque chose à faire pour Dieu, boum !» Et boum! Et finalement, oui, dans ce sens-là, Timothée, il commence à être un peu poussé dans ses retranchements et à se dire, mais attends, je suis dans un coin là, j'arrive plus. Et dès que je veux bouger, je me fais attaquer. C'est la garde ferme avec le chien. L'homme d'attaque et le chien, garde ferme. Le chien, il est là, l'homme d'attaque est devant, le chien, il ne doit pas bouger, couché devant. Dès que l'homme d'attaque bouge, il se fait mordre. Iron, halt. Il arrête. Et le gars, il arrête de bouger. Et dès qu'il bouge, paf. Et le diable, il fait exactement pareil avec nous. Exactement pareil. Dès que tu bouges, il te bouffe. Et à la fin, tu as honte. Et je pense que c'est dans ce sens-là que Paul est en train de parler à Timothée. Cessez d'avoir honte, acceptez de souffrir avec Paul pour l'évangile, et j'ajoute par la puissance de Dieu. Timothée doit être persuadé, retrouver la conviction que Dieu a la puissance de garder son dépôt jusqu'à ce jour-là, verset 12, de retenir dans la foi et dans l'amour qui est en Jésus-Christ le modèle des saintes paroles qu'il a reçues de Paul, verset 13, d'éviter de s'associer à des apostats comme Phygèle et Hermogène et s'identifier aux croyants fidèles comme Onésiphore et sa famille, versets 15 et 16. Dans son cœur, ce feu, cette petite braise qui est encore là, cette petite flamme qui ne s'éteint pas, doit se rallumer. Je ne sais pas si elle marche vraiment, les clims. Je vous vois tous avec les trucs, là. On a les clims, mais j'ai l'impression que ça ne marche pas, non ? Je ne sais pas. Hein, ça ne marche pas, peut-être. Bon, on est sur la Côte d'Azur, hein. On ne va pas se plaindre, hein. Oh, bon, ça va, c'est pas grave. En tout cas, le résumé de tout ça, dans une phrase remplie d'affection et de tendresse, « Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. » C'est uniquement dans la grâce de Dieu que Timothée peut se fortifier. Impossible par ses propres forces. Il ne peut pas. Il ne peut pas. Tout comme nous sommes sauvés par le moyen de la foi, cela ne vient pas de nous, c'est un don de Dieu. De même que nous demeurons sauvés par la grâce de Dieu, qui est fidèle et juste, pour continuer de nous pardonner nos péchés, pour continuer de nous purifier de toute iniquité, de la même manière, comme Paul le souligne dans sa lettre aux Éphésiens, la seule force spirituelle véritable réside dans le Seigneur et dans sa force toute puissante. La grâce de Dieu se déverse continuellement dans nos vies. Et c'est grâce à cette grâce qu'à grâce, nous sommes pardonnés, justifiés, sanctifiés. Et c'est cette grâce qui nous donne le pouvoir d'agir. Si nous perdons de vue cette grâce, eh ben, nous coulons, on se flétrit. Paul va donner à Timothée une série de 4 pilules vitaminées pour son ministère. Enseignement, pilule enseignant, verset 2. Ce que tu as entendu de moi, enseigne-le, dis-le aux autres, et par la même occasion, à toi-même. C'est pour ça que je vous dis, ce matin, je me prêche à moi-même. Ce que tu dis aux autres, dis-toi-le à toi d'abord. Faire des disciples, c'est ça aussi. C'est ce que tu vis, c'est pas simplement donner la bonne théologie, c'est aussi donner ce que toi tu vis et les luttes par lesquelles tu passes. C'est que les gens puissent voir aussi que toi, t'es pas là-haut. Voilà. Déjà au ciel. Tout va bien. Pilule soldat, versets 3 et 4, regonfle-toi. En fait, nous avons été choisis par Christ. Je sais pas pourquoi. Certainement, il nous a donné, c'est pour ça qu'on parle de l'armure, etc., le guerrier. On est un peu des guerriers, il faut peut-être se regonfler. Retrouver l'état d'esprit de combattant. Certainement. Ça, c'est la pilule soldat, versets 3 et 4. Retrouver cette pilule-là, mais toujours en regardant Christ. Ça part de là, se souvenir de qui il est. Pilule athlète. Prof de gym pourrait nous en parler, hein, faire des pompes spirituelles avec Jésus. Je ne sais pas comment ça se passe, mais c'est possible, hein, certainement. Et la pilule laboureur. La pilule laboureur, verset 6, c'est un peu particulier, parce que le laboureur, celui qui plante, l'agriculteur, et elle pourrait nous en parler, Gabi, l'agriculteur, il faut qu'il plante à des bons moments de l'année. Et il faut qu'il récolte à des bons moments de l'année. Il faut qu'il arrose à des bons moments de l'année. On ne fait pas tout et n'importe quoi. Et quelque part, il faut respecter les règles du jeu. Et dans le laboureur, c'est un peu cette idée-là. On ne peut pas prendre des raccourcis dans la vie chrétienne. De la même manière que quand on plante, on ne peut pas prendre des raccourcis. Parce qu'on le paye au bout. Vous n'avez qu'à voir les bananes vertes qu'on vend au supermarché. Dans certains pays, ils les donnent aux animaux, aux cochons. J'avais un ami des îles, Futuna, on allait faire les courses ensemble quand j'étais à l'IBG. Il regardait les bananes, il dit « Vous mangez ça ?» Les bananes vertes, il faut les faire mûrir dans le saladier. Mais elles n'auront jamais la saveur des bananes qui ont mûri jusqu'au bout. Et c'est exactement pareil, le cultivateur, s'il cueille avant les fruits, ils sont verts. Il faut qu'ils soient mûrs. Donc on doit respecter les règles du jeu dans nos propres vies. Vous étudierez chaque pilule chez vous, hein, si vous voulez. Et Paul clôture son ordonnance avec le verset 7, « Comprends ce que je dis, et que le Seigneur te donne en effet l'intelligence en toutes choses. » Comprends, noéo en grec, comprends. C'est la seule fois où ce mot apparaît dans le Nouveau Testament. Noéo sous-entend le fait de percevoir clairement quelque chose, de le comprendre pleinement, de le méditer, d'y réfléchir. Dans le fond, Paul est en train de demander à Timothée, et me demande aussi à moi, est-ce que tu es prêt à faire abstraction de toi-même pour servir Dieu? Es-tu prêt à mettre de côté les affaires de la vie qui t'embarrassent? Est-ce que tu es prêt, ça marche, à faire abstraction de ta vie? Oui. Je suis sûr qu'on va dire oui, mais j'ai pas le jus. Ah mince. J'ai pas le jus. Je veux, mais je suis épuisé là, j'en peux plus. J'ai honte, je plie. Je suis d'accord, mais là, franchement, j'avance plus. Il y a des moments comme ça dans ta vie. On est d'accord, oui, es-tu prêt à faire abstraction? Oui, mais j'arrive pas. Mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Ouvre cette porte-là, regarde cette porte-là, et même si tu n'y arrives pas, demande-moi de t'aider, je suis là, je t'ai choisi et je t'aime. Deuxième passage, l'endurance dans le ministère, on y arrive. 8 à 13. Souviens-toi de Jésus, le Messie ressuscité, issu de la descendance de David, conformément à l'évangile que je prêche et pour lequel je souffre, au point d'être enchaîné comme un malfaiteur. Mais la parole de Dieu n'est pas enchaînée. C'est pourquoi je supporte tout à cause de ceux qui ont été choisis, afin qu'eux aussi obtiennent le salut qui est en Jésus-Christ avec la gloire éternelle. Cette parole est certaine, si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Si nous le renions, lui aussi nous reniera. Si nous sommes infidèles, lui aussi reste fidèle, car il ne peut se renier lui-même. En fait, l'idée de ce passage, c'est le refus de compromis. Si on le décortique un peu, c'est le refus de compromis. Et pas n'importe quel refus de compromis, pas parce que la religion le dit, pas parce qu'il faut, pas parce que tu dois, mais parce que il y a Jésus-Christ. C'est à cause de la personne de Jésus-Christ. C'est pour lui. Parce qu'on a les regards fixés sur lui. Parce qu'on le regarde à lui. Parce qu'on se souvient de lui. Parce qu'on se fortifie en lui. C'est pour ça qu'on refuse le compromis. C'est pas parce qu'il faut, tu dois, yaka. C'est pas parce qu'on est un bon chrétien. C'est pour Jésus-Christ. Raison pour laquelle se souvenir de qui est Jésus est indispensable. Tout au long de l'histoire chrétienne, pas de nos vies, hein, pas uniquement de nos vies, le peuple de Dieu a dû payer le prix fort pour suivre Jésus. Le prix a parfois été élevé. Des milliards de gens ont souffert pour la cause de Jésus. Il y en a qui ont laissé leur vie. Aujourd'hui encore, il y en a qui laissent leur vie. Des époux, des épouses, incroyantes ou incroyants, quittent leur mari. Beaucoup de chrétiens subissent aussi l'ostracisme de leur famille, non-croyante. Ceux que l'on pensait être des amis à toute épreuve ne le sont pas. Les compagnons, Paul en parle. Timothée. Même dans l'Église, tous ceux qui veulent se rendre agréables selon la chair, dit Paul aux Galates, se moquent de ceux qui veulent vivre vraiment leur foi sans compromis. Se rendre agréable selon la chair, c'est utiliser des moyens humains en faisant croire que ce sont des moyens spirituels. Un cadeau à mettre dans vos Bibles. J'ai demandé à Michel Rude de nous le lire, si tu veux bien.
Je vais vous le lire. J'espère qu'il ne va pas nous demander de nous engager au martyr après ça, mais bon. Lors de la Seconde Guerre mondiale, 11 missionnaires sont morts en martyrs sur l'île de Panay aux Philippines. Parmi eux se trouvait un certain Francis Rose, auteur de ces lignes. Toute âme humaine qui vers Dieu s'est élevée a de son sang teinté les marches de l'éternité. Tout gain pour la cause de la chrétienté, c'est au prix du martyr que quelqu'un l'a remporté. Pour nous, il a versé la coupe de cramoisie et nous invite à la boire jusqu'à la lie. Pour nous libérer, il a donné sa propre vie. Ô Christ, aide-nous à la boire à l'infini. 10 000 saints se pressent vers la maison du Père, sortis de la fosse au lion et des catacombes amères, brûlés vifs, morts par l'épée et par les bêtes déchirées. Ils sont morts joyeusement pour Christ, leur roi bien-aimé. Avec les yeux de la foi, nous pouvons contempler ces combattants de la croix gravir les pentes escarpées du calvaire perpétuel de la vie, en poussant ce cri « Pour marcher à ta suite, ô Christ, nous voici. »
Michel Ruth a vu la faute d'orthographe. Vous avez plus qu'à le relire pour voir où elle est. Il y a une petite faute. Ouais, voilà. Non, je ne vous invite pas au martyr, il n'y a pas besoin de ça. Je pense que la souffrance et le martyr, bon, ça c'est un cheminement, c'est un chemin. Hein. Maintenant, vous dire qu'avec Christ, tout ira bien, là, je ne peux pas vous le dire non plus. Mais tout n'ira pas si mal que ça non plus. Mais ça, c'est notre cheminement. Si nous nous souvenons de la prééminence de Christ, de ce qu'il est véritablement, c'est-à-dire le Dieu incarné, le Christ, on va le servir alors de manière plus dynamique, on va être prêt à accepter certaines choses dans nos vies. On va être prêt à encaisser, en fait. On va être un peu plus courageux, plus réaliste aussi. Et finalement, notre assurance et notre capacité de supporter les mauvais traitements va grandir. Souviens-toi de Jésus-Christ. Même si l'apôtre emploie des verbes de façon, on va dire, douce, ils sont quand même employés à l'impératif, fortifie-toi, confie, comprends, rappelle, efforce-toi, évite, éloigne, fuis, recherche, repousse. Tous ces verbes, en fait, sont couronnés, on va dire, par ce souviens-toi au verset 8. Ils sont à l'impératif, mais ils sont couronnés par souviens-toi de qui est Jésus. C'est-à-dire, l'idée continue de te souvenir de Jésus. Souviens-toi de lui en permanence. Pense à lui, constamment. C'est pour ça que dans l'Épître aux Hébreux, ça nous est dit, ayez constamment les regards fixés sur Jésus, qui mène la foi à la perfection. C'est la raison pour laquelle aussi, dans la même Épître aux Hébreux, au chapitre 13, il nous est dit, souvenez-vous de vos conducteurs. Quelle a été leur vie ? Et quelque part, on est enclin dans notre vie chrétienne à regarder à Christ, à regarder autour de nous, à s'encourager les uns les autres mutuellement, de façon à pouvoir avancer même dans la pénibilité. L'évangile, au cœur de notre vie, c'est ça. C'est plus qu'un message le dimanche matin ou sur enseignement.com. C'est quelque chose que tu vis. Vous savez, je crois que les faux évangiles dont il est question dans le Nouveau Testament, en tout cas les mises en garde, existent. Et je crois que, en fait, c'est tout simple. Ces évangiles-là sont centrés sur l'homme et pas sur Dieu. Ils enseignent qu'on doit être bien avant de souffrir. Le bien-être avant la souffrance. On est dans une société comme ça. Le plaisir et le bien-être. On ne veut pas de souffrance. La glorification, on aime bien la gloire avant l'humiliation. La félicité avant l'exaltation. Et l'exaltation avant la persécution. L'adoration dans les cieux avant la haine sur la terre. La résurrection avant la mort. Mais ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Souviens-toi de ton Seigneur qui a appris, bien qu'il soit fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Alors c'est vrai que c'est pas évident à vivre, c'est franchement pas agréable parfois, mais nous qui lui appartenons, on n'apprendra pas les grandes leçons de nos vies sans la souffrance. Oui, Dieu veut guérir. Dieu peut guérir les maladies, etc. Mais il ne faut pas oublier que c'est au travers aussi parfois de ces maladies-là, de ces choses-là que nous vivons, difficiles, que Dieu nous parle et nous fait grandir. Comme on dit, le sachet de thé, vous savez, il y a un Anglais qui disait ça, tu sais s'il est bon quand tu l'as mis à infuser. Il faut le mettre à infuser pour savoir, pour que tout sorte. Tu vois ? Pour que tout sorte. Et nous, c'est un peu pareil. Souviens-toi de lui, prince de la paix, Dieu incarné, le Logos, l'alpha et l'oméga, le Dieu puissant, notre Seigneur Jésus. Je vais prier. Seigneur, merci pour ta grâce et ta parole. Merci pour cet épître, hein, ces lettres qui nous encouragent à regarder à toi, qui nous montrent aussi que de tes serviteurs, il y en a qui sont aussi dans une situation difficile, comme parfois celle que nous passons nous-mêmes. Seigneur, veuille bénir ton Église ici à Grasse. Donne-nous de nous fortifier, comme le dit Paul, dans la grâce qui est en toi, en Jésus-Christ. Donne-nous d'avoir les regards fixés sur toi. Donne-nous de pouvoir marcher dans tes pas, de te regarder constamment, même si parfois nous avons du mal à relever la tête. Au nom de Jésus, en ton nom, je te prie. Amen.